le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. C'est dans la presse. À l'occasion de la Journée mondiale contre la violence faite aux femmes et aux filles, le 25 novembre dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté les hommes à renoncer aux attitudes sexistes et patriarcales en lançant une campagne nationale de mobilisation contre ce fléau. En Afrique du Sud, une femme est assassinée toutes les 3 heures et la police enregistre 110 plaintes pour viol par jour. Le plan d'action du gouvernement sud-africain prévoit un renforcement des sanctions pénales et la création de tribunaux spécialisés. À l'occasion de cette même journée, la représentante d'ONU Femmes pour l'Afghanistan a demandé un effort au gouvernement de Kaboul pour mettre fin aux violences faites aux femmes en hausse, selon la Commission afghane des droits de l'homme. Tout en reconnaissant des progrès avec la nomination de femmes au poste de procureur et juge, Aletta Miller a appelé les autorités à en finir avec l'impunité des crimes contre les femmes et les filles. La violence sexiste est sous-rapportée dans tous les pays du monde, mais en Afghanistan, le degré de sous-déclaration des incidents est extrême, affirme Heather Barr, co-directrice du département droits des femmes à Human Rights Watch. Toujours à l'occasion de la Journée mondiale contre la violence faite aux femmes du 25 novembre, le gouvernement français a annoncé un plan anti-fémicide dans lequel figure notamment l'introduction de l'emprise psychologique dans le code pénal. Il s'agit de créer une nouvelle circonstance aggravante dans le cas de harcèlement ayant conduit au suicide ou encore en inscrivant dans la loi la notion d'emprise psychologique qui prépare souvent la violence physique, a détaillé le Premier ministre Édouard Philippe. Certaines absurdités juridiques seront supprimées, comme l'obligation alimentaire qui contraint les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents, y compris pour un père ayant assassiné la mère. Le texte entérinera aussi le principe de la suspension automatique de l'autorité parentale pour le conjoint meurtrier ou de son aménagement par le juge pénal pour le conjoint violent. Le Japon doit intensifier ses efforts pour augmenter la proportion de femmes dans les postes à responsabilité, a estimé le 25 novembre à Tokyo la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. L'ancienne PDG du FMI, Christine Lagarde, appelait aussi régulièrement le pays à accélérer ses réformes pour augmenter sa main-d'œuvre féminine et sa productivité. Les emplois à temps partiel sont fréquents pour les femmes et seulement 10% des chefs d'entreprise sont des femmes au Japon.
Paroles de femmes.
L'Ordre national des architectes du Tchad a organisé une table ronde les 7 et 8 novembre à N'Djamena sur les villes africaines du futur, qui a vu la participation d'experts internationaux. J'ai joint à N'Djamena la présidente de l'Ordre, Ayat Ndiaye, qui a mené les discussions et qui est spécialisée dans l'architecture prenant en compte le développement et l'aspect environnemental. Elle revient ici sur ses premières assises en mettant l'accent sur la conception d'un habitat à caractère social avant de s'exprimer sur le fait d'être la première femme architecte au Tchad où elles sont à présent trois à exercer cette profession.
Il a été question de faire une planification à plus long terme de l'urbanisation de nos villes pour 20 ans et au-delà, parce que jusqu'à présent, toutes les planifications se sont faites sur 5 à 10 ans. Et d'autre part, il a été recommandé que des constructions et des codes d'urbanisme puissent être élaborés au niveau africain et qu'ils puissent être vulgarisés et surtout appliqués. Les villes africaines sont différentes les unes des autres. Il n'y a pas un schéma type. Donc il a été surtout question d'une urbanisation adaptée et spécifique à chaque contexte.
Alors justement, en ce qui concerne les contraintes en relation avec donc les caractéristiques du continent, notamment la chaleur, la météo, les contraintes environnementales, qu'est-ce qu'il a été donc conclu par rapport à cela?
Il a été recommandé effectivement de tenir compte de l'aspect contextuel, parce qu'une ville du Sahel n'est pas une ville d'Afrique australe. Il est important, je pense qu'aujourd'hui, de penser climat, de penser environnement, de penser espace vert notamment, puisque nous, particulièrement au Sahel, nous avons très peu finalement d'espace vert et nous plantons peu. C'était aussi de créer des filières de main-d'œuvre développée et professionnelle localement, une main-d'œuvre qui puisse prendre en charge l'édification de nos villes et de créer aussi des filières de matériaux de construction locales, c'est-à-dire penser aussi à une architecture bioclimatique qui serait finalement en fait adapté un peu aux besoins des personnes qui occupent ces diverses constructions.
Alors en ce qui concerne le design de l'architecture, des habitations, des bâtiments, etc., est-ce qu'il en a été question également? Parce qu'on parle des villes africaines du futur, donc notamment de mêler le moderne au traditionnel.
Effectivement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de définir une identité architecturale aussi au Sahel. Il y a plusieurs milliers d'années, l'architecture traditionnelle sahélienne était une architecture reconnue. Nous avons perdu un peu cette fibre identitaire. Il s'agit effectivement de repenser la ville moderne, pas forcément comme une ville futuriste ou une ville censée ressembler à tout ce qu'on peut voir à travers le monde. On estime entre 80 et 90% de la population qui est concernée par un type d'architecture alternative qui est encore à trouver. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de l'architecture traditionnelle archaïque qu'on connaissait en terre crue. Et on va directement de l'autre côté à l'architecture moderne en béton et finalement ça laisse très peu de marge et ça laisse très peu de possibilités pour les bourses intermédiaires qui finalement sont les plus nombreuses. Donc voilà un peu tous les défis qui est de penser aux logements sociaux. Donc il faut quand même qu'on puisse reprendre tous ces problèmes économiques et contextuels puis les régler à travers l'architecture et l'urbanisation.
Alors on sait que la population africaine aura doublé d'ici 2050 et 6 Africains sur 10 vivront en zone urbaine. Alors ça c'est un réel problème que vous rencontrez dans les grandes cités africaines et l'on sait qu'on a énormément de constructions anarchiques, des problèmes de bidonvilles, etc. Quels sont les plans, quelle planification pour les infrastructures urbaines concrètement?
On estime aussi que 2/3 des infrastructures donc nécessaires pour accueillir cette population à l'horizon 2050 n'ont pas encore été construites. Je pense que le problème de fond, il y a un problème de mise en œuvre parce que jusqu'à aujourd'hui, les plans de développement ont été élaborés, mais très peu ont été respectés. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons penser à des plans à plus long terme et surtout une procédure de mise en œuvre qui doit dire clairement quand, comment et avec quels moyens ces plans doivent être mis en œuvre. C'est le challenge aujourd'hui des urbanistes et je pense qu'il y a un problème aussi de prise en charge des réalités contextuelles, des études de terrain, des études sociales, des études environnementales. Donc nous encourageons que ces documents soient faits localement et qu'ils soient faits par des professionnels africains.
Vous avez été nommée en 2019 présidente de l'Ordre national des architectes du Tchad. Vous êtes la première femme architecte dans votre pays. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés, que vous rencontrez encore, notamment au sein de cette profession qui est typiquement masculine?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecture est un cercle évidemment très fermé pour les femmes, et pas seulement ici au Tchad ou en Afrique, c'est un peu partout le cas dans le monde. Je suis la première femme architecte en France, je crois que ça date de 1915. Donc je pense que c'est un métier qui est quand même assez jeune un peu partout, et encore plus ici en Afrique. Et je pense que c'est plus par problème d'opportunité, parce que nous n'avons pas d'école de formation en architecture ici, pratiquement dans le Sahel. Il faut aller très loin pour trouver, et c'est des études études qui coûtent particulièrement cher. Voilà pourquoi la plupart des femmes ne s'engagent pas, je pense, dans ces pays-là, dans ces secteurs. Mais c'est un gros manque à gagner, effectivement. Moi, personnellement, je ne m'étais pas beaucoup rendu compte, parce qu'il a fallu que je revienne ici chez moi pour me rendre compte que j'étais la première femme architecte. Pendant mes études, je ne le savais pas. Et de ce point de vue, je n'ai pas forcément eu des problèmes très, très, très importants. Au départ, le problème, il est le même, c'est une femme qui va sur les chantiers.
L'on imagine que vous travaillez dans le monde de la construction avec beaucoup d'hommes. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'intégrer plus de femmes dans la profession ?
Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'un mentor, d'une icône, en fait, dans l'architecture. Nous avons besoin de voir d'autres personnes dans ce domaine. À mon avis, depuis que j'ai ouvert cette porte ici au Tchad, pas mal de femmes se sont finalement ont vu que c'était faisable et que c'était possible. De ce point de vue, je reçois pas mal de mails de jeunes filles qui me disent qu'elles voudraient s'engager aussi en architecture parce que finalement, ça devient possible pour toutes les femmes de s'engager dans ce secteur. Nous avons créé avec quelques amis une association il y a quelques années pour encourager les femmes, pour finalement les désinhiber parce que c'est un problème psychologique à la base de se dire que nous ne sommes peut-être pas en mesure de faire ces choses-là. Et finalement, on voit quelqu'un s'engager sur ce secteur et puis on voit que la personne arrive quand même à faire ce qu'elle a envie de faire.
Hayat Ndiaye, présidente de l'Ordre des architectes du Tchad, était jointe à N'Djamena. République démocratique du Congo. Les femmes sont également sous-représentées dans les métiers d'ingénieur en informatique et font face à de nombreux stéréotypes en ce qui concerne ce type de carrière. Aujourd'hui, certains acteurs du secteur privé et public essayent ainsi de changer cette situation. Voici le reportage de Charlie Kazereka, notre correspondant à Goma.
Certaines femmes avouent qu'elles n'osaient pas suivre cette option à cause des stéréotypes et d'autres clichés. Emmanuela Vassikia n'a pas réussi à surmonter tous ces échos racontés autour de ses métiers.
Avant, il y avait des us et coutumes qui ne permettaient pas aux femmes, aux filles, de suivre les options comme la communication. Quand vous voyez une fille parmi tant de garçons, on avait des considérations là très négatives en pensant que la fille est une prostituée, soit elle se fait voir. Je pense que les filles ont beaucoup perdu les filles ainsi que les mamans et il est temps de récupérer ces retards-là.
Arsène Tungali est un activiste pour les droits à l'internet. Il estime aujourd'hui qu'il n'y a aucune excuse.
À ce siècle ici, personne ne devrait se mettre à l'écart. Désormais, on dit que les analphabètes, ce sont toutes ces personnes qui ne savent pas manier l'outil du numérique. Suite à beaucoup de raisons, des coutumes et à faire ce que les femmes soient derrière, mais aussi les parents ne les encourageaient pas. Regardez juste les statistiques des femmes qui vont à l'école et vous verrez que c'est presque la même chose pour les femmes qui vont sur Internet.
Les chiffres sur la présence des jeunes filles dans les écoles d'informatique commencent à grimper à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion de Goma. On s'est dit satisfait de ces progrès. Didier Fataki était enseignant et chef de section à l'ICIJ Goma.
Aujourd'hui, on est autour de 32% des filles, alors qu'il y a 5 ans, c'était autour de 21%. Ça montre que la progression est là. Et là, je ne parle que des statistiques de notre institution. Quelqu'un qui fait l'informatique aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent créer ce qu'on appelle les start-up et cette possibilité d'être autonome.
Être autonome, c'est ce que fait aujourd'hui Joséphine Ndézé, la vingtaine d'âge, entrepreneur et passionnée de la programmation. Elle a lancé son start-up avec une application qui aide les femmes enceintes à détecter les signes vitaux, une application qui lui a valu un prix.
Non seulement j'aime l'informatique, c'est comme une passion, mais également c'est un défi envers tous ces gens qui prétendent que les femmes ne peuvent pas faire l'informatique. Grâce à ça, je suis devenue cofondatrice d'une start-up ici à Goma, UpToDate Developers, et je crois que je vais aller plus loin.
Le gouvernement congolais doit s'impliquer. C'est son devoir de promouvoir les jeunes filles dans ces domaines longtemps laissés aux hommes, estime Aoubangira Safari, député national et ingénieur en informatique.
Moi, je pense que tout ça fait partie de la problématique du genre. Je vais essayer de voir comment sensibiliser les femmes, les filles. Si on voit au niveau national, parmi les meilleurs des ex-États, il y a beaucoup de filles. Ce sont ces filles qu'on doit essayer de voir comment promouvoir aussi, faire ce qu'on appelle une discrimination positive.
Lors de la 6e édition de la Semaine de la Science et Technologie tenue à Kinshasa le 20 avril dernier, une base de données des femmes en sciences a été présentée dans un rapport indiquant seulement 23% des informaticiens actifs actuellement en RDC sont des femmes. Charles Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Interpol a lancé un appel à témoins pour capturer 8 fugitifs. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences basées sur le genre le 25 novembre, l'appel vise des hommes recherchés en Russie, en Norvège, en Ukraine, au Danemark, au Brésil, à Chypre et aux États-Unis. 4 sont accusés du meurtre de leur épouse ou ex-compagne, 3 d'avoir tué d'autres femmes et un autre de plusieurs agressions sexuelles. La violence contre les femmes et filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues et persistantes, a rappelé le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Selon l'ONU, 87 000 femmes ont été tuées dans le monde en 2017, dont plus de la moitié par leur conjoint, leur partenaire ou au sein de leur famille.
Si jeunesse pouvait.
Lors d'une visite au Togo le 14 novembre dernier, l'homme d'affaires chinois Jack Ma, cofondateur et ancien président du groupe Alibaba, conglomérat multinational de technologie, a rencontré à Lomé plusieurs jeunes entrepreneurs togolais et d'autres venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de Madagascar, du Maroc et du Sénégal. Ensemble, ils ont parlé de l'entrepreneuriat en Afrique et des secteurs prometteurs, dont notamment le e-commerce. Monsieur Ma a donné quelques astuces à ces jeunes créateurs de start-up pour réussir dans le monde des affaires. Notre correspondante Kay Lawson nous en dit plus.
Ils étaient tous sur leur 31 pour cette rencontre avec l'homme le plus riche de la Chine. De jeunes entrepreneurs venus de 9 pays francophones d'Afrique ont pu apprendre de la vie et de l'expérience de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Pendant une heure d'horloge, ils ont abordé diverses thématiques, de la création d'une entreprise à son succès, en passant par les difficultés. Jack Ma est largement revenu dessus.
Apprenez de Jack Ma. Apprenez comment il a perçu les difficultés. Comment il a pu relever les défis. Et bien comment il a échoué, s'est relevé et a recommencé. Dans ma vie, il y a deux mots. Échec et recommencer. Parce que lorsque vous échouez et vous abandonnez, alors véritablement vous échouez. Mais si vous n'abandonnez pas, alors vous avez toujours une chance. Et c'est ce que je veux dire aux entrepreneurs africains. C'est impossible pour vous d'être exactement en 2 ans.
Le message est bien passé, nous ont dit ces entrepreneurs à la fin de la rencontre.
J'ai retenu beaucoup de choses. D'abord qu'il faut être tenace. Qu'un business, ça peut échouer, mais il faut toujours recommencer.
Il a dit qu'en tant que jeune entrepreneur, nous devons plutôt mettre l'accent sur la ressource humaine, mettre l'accent sur les employés, mettre l'accent sur les clients, et la publicité se fera d'elle-même.
Je suis en train d'aller vers de la vente en ligne et je voulais tirer de l'expérience de ce qu'il a fait. Je voulais comprendre comment est-ce qu'il est arrivé à surmonter les barrières d'accès à Internet, d'achat traditionnel en mode aller en boutique, et j'ai réussi à tirer des réponses à ces questions-là, j'en suis ravi.
Jack Ma a insisté sur la place qui est accordée à lui-même dans la chaîne de valeur de la société Alibaba. Cyriac Gbogou, cofondateur de l'incubateur au village en Côte d'Ivoire, dit avoir retenu cet élément essentiel.
Je repars avec ce truc très fort qu'il a dit. Il dit, quand je recrute quelqu'un, je me dis que cette personne-là, dans 5 ans, peut être la personne qui va me remplacer. Et ça, je pense que dans nos mentalités africaines, c'est pas quelque chose que nous avons. Nous devons former ceux qui doivent nous succéder de telle sorte que, quand nous ne sommes pas là, ils puissent continuer quand même la flamme qui est là. Je pense que c'est ce message-là, en retournant, que je vais partager avec tous ces villageois-là.
La ministre togolaise de l'économie numérique, Sina Lawson, revient sur l'importance de la présence de Jack Ma au Togo.
C'est la première fois que Jack Ma vient dans un pays francophone d'Afrique. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que lorsque vous connaissez un pays, vous avez rencontré les gens. Si vous voulez demain monter un projet en Afrique francophone, vous viendrez au Togo parce que vous direz, mais je les connais, je suis déjà venu. Et il est venu avec les membres de sa fondation qui sont des chefs d'entreprise chinois. On se dit que
lorsqu'ils décideront de venir investir en Afrique francophone, ils viendront au Togo et c'est pour ça que cette rencontre est aussi importante.
Les secteurs porteurs et les opportunités d'investissement en Afrique ont aussi été au cœur des échanges. Pour une meilleure croissance du continent, Jack Ma fait une suggestion axée sur 4 points.
Je les appelle les 4 E. Le premier E, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat qui crée, qui produit. Deuxième E, c'est le e-gouvernement. Il faudrait que le gouvernement soit électronique, hein, que le gouvernement soit transparent. Il faudrait que le gouvernement également soit efficace. Hein. Troisième E, c'est e-infrastructure. Les infrastructures électroniques, avoir accès à l'Internet rapide. Et le quatrième E, c'est l'éducation.
En ce qui concerne le e-commerce en Afrique, le premier marchand en ligne au monde estime qu'il a un avenir prometteur. Tout le continent africain devrait avoir un seul moyen de paiement mobile, pense le milliardaire chinois. Reste que ces conseils soient mis en application pour l'éclosion d'une nouvelle ère d'entrepreneurs. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Cinq jeunes centrafricains ont participé à Dubaï du 24 au 27 octobre dernier à un concours de robotique qui a réuni plus de 1500 personnes issues de 191 pays. Leur retour à Bangui a été triomphal. Pascal Serra leur a tendu le micro.
Israël, Brunita, Benjamin, Gracia et Saïd, âgés de 13 à 18 ans, reviennent de Dubaï où ils ont participé au First Global DBX Challenge édition 2019, un événement qui rassemble des jeunes créatifs dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle. Pour cette occasion, l'équipe des jeunes centrafricains baptisée First Bay Africa a concouru en présentant un robot appelé Kité, qui signifie le défi en langue nationale Sango. Brunita Bilesia est âgée de 15 ans et est participante au concours de robotique à Dubaï.
Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ce soit les pays africains, européens, asiatiques, ils étaient tous, sympathiques. Et je pense que s'il y a la solidarité en Centrafrique, nous pouvons faire beaucoup de changements.
Israël Gwangouni est âgée de 13 ans et est également participant au concours de robotique à Dubaï.
Je me sens bien au retour de la compétition. Après Dubaï, je vais continuer les entraînements robotiques pour me perfectionner.
Les jeunes ont présenté un robot capable de procéder à la récupération des déchets. Ils ont bénéficié d'une formation portant sur les bases de la robotique et de la programmation. Une formation dispensée par une équipe de bénévoles dont la mission est entre autres de redorer le blason du pays en mettant en lumière des jeunes centrafricains talentueux. Cédric Zouadé, encadreur et formateur bénévole.
Nous sommes donné ce défi-là et de faire participer ces enfants à cette compétition dans le chiffre déjà de montrer aux yeux du monde entier que la Centrafrique, au-delà de tout ce que les médias montrent, il y a une Centrafrique qui gagne.
D'ici le mois de décembre, les encadreurs espèrent pouvoir mettre en place un projet plus important qui consistera à regrouper une cinquantaine d'enfants intéressés par les nouvelles technologies et notamment par la robotique.
Et si la jeunesse pouvait.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!